Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur votre émission Nos Santé Mentale en Lutte sur Fréquence 7 et c'est Cal derrière ce micro aujourd'hui pour vous parler d'un sujet intense mais un sujet tellement essentiel. Aujourd'hui et pour le mois d'avril, on se lance dans le sujet de l'enfance et de l'enfantisme, de la lutte pour les droits de l'enfant. Alors, en termes d'invités aujourd'hui, c'est un peu particulier, parce que l'idée de départ, c'était comme toujours d'inviter les personnes concernées, plutôt extérieures. Bon, vous pouvez imaginer que pour ce genre de sujets qui ont attrait à des violences qu'on a pu subir pendant notre enfance, eh bien, c'est pas évident pour les gens de venir témoigner. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, bah, je pourrais aussi avoir des petits témoignages de tous les enfants qui m'entourent. Et puis, je me suis dit, non, en fait, on est là pour les protéger. Et donc, c'est une émission pour les adultes. Alors, je me retrouve seule, mais en même temps, ça fait sens parce que c'est un parcours du combattant et de la combattante que de vivre ces choses-là durant l'enfance et de grandir avec ça. Et donc, en tant que militante, eh bien, aujourd'hui, j'ai voulu... avec du courage et beaucoup de bienveillance et d'indulgence à mon égard, me dire que j'allais porter la voix de tellement de personnes qui sont invisibles et qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui pour en parler. Donc je suis là, pas dans un ego trip, mais dans un témoignage et avec une analyse et un cri pour alerter, avec toutes mes forces, avec mes ongles bien rongés d'avoir préparé cette émission, avec la voix du silence et des livres et des œuvres pour me cacher derrière un peu quand même. Alors bien sûr, je dois dire qu'il y aura un trigger warning, des déclencheurs qui peuvent être difficiles pour certaines personnes, puisqu'on va parler de violences faites aux enfants, on va parler d'inceste, de viol, même si on va essayer de le faire, comme toujours, avec les mots choisis, avec les mots des œuvres aussi qui nous entourent, et puis avec les témoignages des personnes concernées. Alors, on peut se demander, même si ce serait un peu étrange de se demander ça, mais pourquoi une émission dédiée à l'enfance et à l'enfantisme ? C'est le collectif enfantiste, justement, qui donne un peu la définition de ce qu'est l'enfantisme. C'est justement une lutte contre les violences faites aux enfants et aux ados, pour le droit des enfants, l'intersectionnalité dans ce droit des enfants, et c'est une lutte contre l'adultisme et ses mécanismes de domination. Donc, et oui, Clara, on voit que le isme peut être positif et négatif. Sur leur site, ils rappellent de manière assez funeste les chiffres. Vous pouvez aller les consulter par vous-même, mais pour en donner deux qui sont assez parlants, en France, chaque année, il y a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et c'est en France toujours que chaque jour, 200 enfants sont victimes de maltraitance. Voilà, donc 81% des violences sexuelles débutent avant 18 ans et c'est environ le même pourcentage des violences qui sont réalisées dans le cadre intrafamilial. Donc ce sont des chiffres accablants et c'est sur ce constat que j'ai voulu commencer cette émission. Et ce qui est drôle un peu, mais un peu triste aussi, c'est que en arrivant pour enregistrer cette émission, je croise les personnes de l'émission Drôle de Dame, qui justement diffuse cette semaine une émission sur l'enfance en danger, avec aussi la participation de l'artiste solidaire Natimo. Donc vous voyez, hein, à Fréquence 7, les astres se sont rassemblés pour qu'on se donne du courage cette semaine pour parler de ce sujet très important. Alors, la sélection littéraire du jour, mais pas que littéraire, concoctée avec soin par la Bible queer et féministe, les lins, les lunes et les lynx, eh bien, c'est avant tout des livres jeunesse. Je pense au conte pour adultes Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Reusemann, où on nous parle de la fabrique du silence, donc avec ce conte quelque peu fantastique, on nous parle de cette grande usine qui serait qui renferme j'aimerais tous les silences de tous ces non-dits, de tous ces omertas et ces sujets qu'on ne peut pas aborder sur les violences faites aux enfants. Ça nous parle aussi d'un sujet intéressant, ça met en image les nuances qu'il peut y avoir entre agresseurs et agressés, les nuances entre bleu lorsqu'on est une personne victime et rouge quand on est une personne agresseur, bourreau, et puis violet quand on est comme ça. C'est souvent le cas aussi, une personne qui a été victime et qui est devenue bourreau. Donc voilà, un conte pour adultes vraiment fascinant et ultra nécessaire sur le sujet. Et puis un autre livre jeunesse, Les yeux fermés, toujours un roman graphique par l'actrice Héloïse Martin et les dessinatrices Baptiste Magontier et Valentine de Lucie. Alors là, on y parle de comment est-ce que ça fait dans un grand rassemblement familial quand il y a cette personne qui va foutre le bordel en parlant de ce sujet qu'on préférait ne pas aborder. Comment est-ce que ça fait de se reconstruire avec certaines personnes de la famille et sans beaucoup d'autres personnes de la famille ? Voilà, ça m'a beaucoup parlé en tant que personne directement concernée. Et puis, un roman graphique qui m'a aidée aussi, c'est On l'appelait Vermicelle de Fanny Vella. Je vous en parlerai un petit peu après, c'est un roman un peu plus général sur les violences que peuvent subir l'enfant, donc voilà, et jusqu'à son adolescence. Et puis, Triste Tigre est arrivé à moi, ce roman autobiographique de Neige Sino. Ça, c'est le livre que je ne me pensais jamais capable de lire, que je l'ai finalement terminé d'une traite. Et puis, Firestar de Adé Rose. Ça, c'est de la poésie vénère et convulsive comme on l'aime. Ça, c'est le livre clairement que j'aurais aimé pouvoir écrire. Et puis à la Biblie, on trouve aussi à la Cantine Pop toujours des brochures d'information. Là, on en a une par exemple à destination des maternelles, des CP, des CE1, qui s'appelle « Quand on te fait du mal », information sur les violences et leurs conséquences par les doctoresses Muriel Salmona et Sokna Fall. Et puis un fanzine disjoncté sur les violences sexuelles et l'excellent journal de réflexion sur la psychiatrie « Soin, numéro 3 ». Tout ça, c'est aussi un merveilleux endroit où vous pouvez trouver à la fois du réconfort, des témoignages, mais aussi des ressources très précieuses. Alors ces ressources, je vais les nommer en début d'émission, mais sachez que vous pouvez les trouver toujours dans le texte d'accompagnement sur le replay de l'émission, sur le site de Fréquence 7, rubrique Au-delà de l'actu, nos santé mentale en lutte, et donc vous aurez toutes les émissions en replay, hein, n'hésitez pas. Alors bien sûr, le numéro d'urgence 119, donc le numéro c'est le 119 pour les enfants en danger. En Europe, c'est le 116-111. Et puis la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui fait un travail admirable. France Victimes aussi, c'est le 116-006, mais aussi tellement d'associations comme Avi, Arevi, L'Enfant Bleu, Brise le silence ou encore le mouvement Innocence en danger. Et puis je rajoute, parce que souvent c'est lié, puisque ça reste une continuité, un continuum des violences, eh bien le numéro 3919 pour les personnes victimes de violences, qui sont femmes et qui se sentent femmes. Le numéro également 3020 pour le harcèlement ou les violences scolaires, et le numéro 3018 contre le cyberharcèlement. Voilà, après toutes ces ressources, eh bien, je voulais vous parler de deux œuvres cinématographiques qui m'ont beaucoup aidée, déjà à cheminer personnellement et ensuite à préparer cette émission. Le film d'Andréa Bescon, Les Chatouilles, j'y reviendrai. Et puis le documentaire Réinventer l'enfance, qui voilà, parle notamment de ces réminiscences et de la levée de l'amnésie traumatique pour beaucoup de victimes. Ce documentaire de Eve Simonet, on en écoute dès maintenant la bande-annonce.
Enquête préliminaire, procès verbal de synthèse. Préambule. Le 23 février 2001, au bureau de notre brigade, se présente... Ça va être compliqué.
Thank you.
Exactement.
Mais Miette n'en peut plus d'avoir peur.
Simonet, qui signe ce documentaire « Réinventer l'enfance », c'est la fondatrice de la plateforme de streaming queer et féministe On Suzanne, à qui l'on doit notamment la série « Elle comme lesbienne » et elle a aussi fondé l'association de soutien aux mères en postpartum Club Poussette, ayant été elle-même victime. Donc on le voit très souvent, les militants, les militantes et les activistes, je dirais même toujours, sont des personnes qui avant tout ont subi des violences et qui ont besoin de s'entourer et de trouver du réconfort et de l'aide pour guérir et avancer. Et puis dans ce documentaire, justement, on y explique très très bien ce qu'est un psychotraumatisme et comment, en termes de victimologie, on peut en fait expliquer les mécanismes de dissociation, les mécanismes de préservation qu'on peut avoir. C'est donc la victimologue et ethnologue, mais aussi thérapeute familiale, Sokhna Fall, qui est interviewée dans ce documentaire. Mais on y retrouve énormément de témoignages, notamment Juliette Drouard, qui va nous lire un extrait de son premier roman « Cui-cui » aux allures enfantines. Et puis le témoignage aussi d'une autre figure queer et militante, Océan, ou encore les coloreuses du collectif enfantiste, justement. Et alors, en tant que personne concernée, vous l'aurez compris, je voulais vraiment proposer un épisode de Nos Santé Mentales en lutte sur l'enfance et notamment sur l'omerta de l'inceste, puisqu'on ne sait pas ce qui se cache derrière le sourire des petits enfants qui vont chaque jour à l'école le ventre noué. Mais aussi, puisqu'il s'agit de continuum des violences et de violences sexistes et sexuelles, on ne sait pas ce qui se cache aussi derrière le sourire des femmes et minorités qui se battent la nuit. Donc en tant qu'écrivaine aussi, j'aimerais parfois pouvoir écrire sur autre chose qu'un moi-je endommagé. J'aimerais écrire au-delà de soi, sinon pourquoi ? Pour guérir, pour se sauver soi et les autres. Mais c'est une autrice, justement, Neige Sino, qui m'a permis de me réconcilier aussi avec cette part de mon art, cette part aussi de ma vie. C'est donc dans Triste Tigre. Puisque moi aussi, j'ai commencé à parler beaucoup, d'abord fuir ce genre de lecture, ce genre de film, et puis plonger le corps tout entier dedans pour me sentir moins seule, et en même temps à la recherche de mon histoire. Mais il y en a malheureusement tellement que c'est presque impossible de retrouver une histoire qui colle parfaitement à son récit. On serait parfois tenté même de minimiser ce que l'on a vécu face aux témoignages effroyables de certaines personnes. Dans « On l'appelait vermicelle », il y a cette notion très intéressante que la résilience ne peut pas arriver sans reconnaissance de la souffrance. Et c'est souvent un passage obligé pour la victime ou la personne ayant été victime et survivant à ces violences de l'enfance. C'est ce passage obligé d'en parler, de vouloir que cette violence soit reconnue, même a posteriori. Et c'est assez difficile pour les proches souvent d'accepter qu'on n'ait pas vu, qu'on n'ait pas pu empêcher cela d'arriver. Et parfois on préfère se dire que c'est du passé, qu'il vaut mieux l'enfouir ou même remettre en cause la parole des victimes. Et bien sûr, c'est une double peine que les victimes vivent. Puis j'ai osé y aller grâce à la bienveillance et le soutien de mes proches via ses contes et ses livres jeunesse. Et je me suis donc engouffrée dans le conte pour adultes « Grand silence » de Sandrine Revel et Théa Rojman, mais aussi « La fabrique du silence » dont je vous parlais. Et mon choc littéraire et humain a bien sûr été « Triste tigre » qui m'a amenée à écrire ce petit texte poétique que je voulais partager avec vous maintenant. « triste tigre et me voilà bouffée à vouloir les sauver. J.M., Clem et toi, elle, tout s'est effondré. Perte de crédibilité, exclusion du noyau familial, déni de toutes parts, hypocrisie générale. Je dois survivre. Encore, une violence de plus à absorber, un trauma de plus, des larmes à sécher et enfouir mon cœur, loin des dangers. C'est peut-être une nouvelle page, un tri nécessaire à vivre, avancer avec les vrais, avec celles qui restent et sont toujours restées, celles qui te croient sans besoin de preuves, qui t'écoutent sans se victimiser, celles qui te voient et calmeront la crise en comblant le silence de tout leur amour. Et alors, ce texte-là fait écho à un texte que j'avais écrit sur l'enfance en 2021. Et ça nous parle aussi de ce terme qui est souvent utilisé dans l'ouvrage Triste Tigre, de vie endommagée, damaged life. C'est d'ailleurs, comme nous le rappelle tristement Neige Sino, le nom d'un site pornographique pédocriminel. Vous vous rendez compte, ils ont osé appeler damaged life les vies abîmées. Ce site-là, comme si la conscience derrière tout ça était bien en alerte et le déni un peu moins que ce que l'on pourrait croire. Eh bien, je voudrais vous lire ce passage de ce texte que j'avais écrit en 2021, ce texte qui m'a permis d'en parler, puisque c'est le début, de s'en parler à soi-même, puis d'en parler aux autres. Ce texte, je l'avais envoyé à ma famille, à des proches, pour commencer à planter des graines, lever ce silence, et puis me sentir moins seule, et que ça sorte de moi. L'enfance et son innocence. Les yeux grands ouverts à sentir le monde, avec son cœur pur, entier, intact encore, et rire, souvent, joie de vivre de l'enfant bien entouré, passer le temps à vivre vraiment, des jeux d'enfants aux jeux de grands, les âmes d'antan envolées dans le vent, obsession, perfection, rangement des choses pour faire taire la cause, apaiser le chaos intérieur et abattre toutes ses peurs. Hurlement silencieux de l'enfant bienheureux, amnésie sur les mots, détresse sans mots, la solitude nouvelle habitude, prise pour cible de garnement fébrile, comment se défendre sans armes à prétendre, le corps abattu, on ne touchera plus, les docteurs réducteurs à défaut de comprendre ou de bien vouloir entendre, les cris enfouis derrière ces non-dits crieront à la folie. Folie funeste, avenir modeste, anormalie proclamée, enfant désemparé, grandir, mûrir bien avant le temps de tous les tourments, oublier l'enfant, quitter furtivement, et encaisser, se rabaisser, l'âme décomposée. Comment s'aimer quand survit le secret ? Un jour révélé, l'enfance broyée, parole retrouvée, déjà muselée pour ne pas briser l'image si bien tissée d'une famille soudée. L'enfance pardonnée, apprendre à s'aimer et enfin assumer la folie renouvelée de celle attisée par les rires exaltés et ces instants volés, envolés pour l'été, folle liberté, des chaînes débarrassées, abolit le passé, par manque de n'avoir été l'être survolté se veut passionné et avec frénésie la diagonale de la vie la rattrape de son lit. À perdre des amis pour des amours d'une nuit, pour une attention infime, se plonger dans l'abîme et chercher dans la fête l'ivresse et les paillettes, maquiller la réalité, danser en buée pour ne pas penser aux fantômes occultés. Tristesse dévoilée, les masques tombés et finalement rêver qu'un jour réparé son cœur ciselé pourra être aimé. Et rêveuse, je le suis, la tête blottie dans les nuages, je fuis pour me donner l'envie d'être celle que je crie et recommencer à l'enfant s'arrêter, repeindre le paysage de couleurs sauvages et vibrer encore au-delà du dehors, perdu dans la nuit où l'onirisme prend vie, retourner dans le lit et dans ce corps, épris, se laisser désirer et enfin emporter vers un ciel étoilé. Et je vous propose une petite pause musicale avec cette très précieuse chanson de Maylan, Le Loup.
Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce, je me cache. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, sous, je ne suis pas libre, sous ce regard. Et sur le qui-vive, toujours. Plus très bien quitté sous cet œil tout je le vois lourd, voyez le lourd. Papa, fallait papa venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien quitté sous cet œil tout je sais que le loup n'est plus dans la forêt.
C'était Le Loup par Mylan. Et merci aux artistes comme elle qui font un travail aussi fantastique auprès des scolaires pour leur faire comprendre les limites, les interdits et les préserver, les protéger. Alors, on peut se demander, ok, nos santé mentale en lutte, quel est le rapport avec la santé mentale? Eh bien, vous l'aurez peut-être compris dans le texte précédent que je vous ai lu, que j'avais écrit en 2021. Les implications sur la santé mentale sont multiples, elles sont bien sûr aussi diverses que les situations qui sont malheureusement arrivées à tant de personnes. Pour ma part, dans l'enfance, ça a pris la forme des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est par exemple des petites habitudes qu'on peut avoir mais qui en fait nous empêchent de vivre parce qu'à l'intérieur de votre tête, il y a une petite voix qui vous dit que si vous ne faites pas cette chose-là, toucher 14 fois un cahier ou ne marcher que dans les ronds ou les carrés, eh bien votre famille entière mourra. Donc c'est très lié à la culpabilité et c'est très lié aussi à des problèmes de se sentir sale et de devoir réparer ça par des petits rituels. Ces TOC-là, moi je sais que personnellement, une méthode alternative de médecine alternative m'a beaucoup aidée, c'était la kinésiologie, puisque c'est une science qui prend aussi en considération le toucher par des gestes très expliqués, très rassurants, et puis aussi bien sûr respectant les limites du corps. Ensuite, bon, dans l'adolescence, hein, comme beaucoup, j'ai pu subir des troubles du comportement alimentaire. Ça pouvait être non pas de mon côté de la boulimie, mais plutôt de l'anorexie. Et puis ensuite, en grandissant encore à l'âge adulte, de l'hyperphagie. Donc ça veut dire qu'on va manger outre mesure et s'en rendre malade dès qu'on est stressé, angoissé. L'anorexie, bien sûr, engage aussi de ne plus manger et de faire semblant de manger, toujours se murer dans le silence, comme pour vouloir disparaître, que son petit corps disparaisse, comme le dit si bien Solane dans la musique Petit Corps. Et puis, j'ai été diagnostiquée seulement en 2023, donc à l'âge de 28 ans, d'un trouble de la personnalité borderline. Alors c'est un trouble encore méconnu qui fait partie des troubles de l'humeur et de la personnalité et qui est notamment basé sur une peur de l'abandon. Donc c'est un trouble qui est directement, qui provient de l'enfance et des traumatismes de l'enfance et qui ensuite va amener à des comportements à risque, va amener à des problèmes relationnels plus intenses que la plupart des gens pour le faire rapidement. Mais personnellement, je sais que les thérapies cognitive et comportementale, et notamment celles appelées de troisième vague, qui sont développées par l'incroyable service des troubles de l'humeur et du comportement du CHU de Montpellier, eh bien, ces thérapies-là permettent de s'en sortir et de guérir et de se sentir moins seul. C'est des thérapies qui sont aussi possibles en visio, donc pour aussi éviter l'isolement social de personnes qui seraient éloignées et loin des villes comme celle de Montpellier. Eh bien, ce sont vraiment des thérapies fantastiques développées par des personnes extraordinaires comme la doctoresse Déborah Ducasse. Bon, pour vous parler rapidement d'un cheminement, eh bien, il y a eu donc, comme vous l'aurez compris, des œuvres théâtrales qui m'ont aidé à prendre conscience, en fait, de cette amnésie traumatique, avec ce que l'on appelle des réminiscences. D'abord, Les Chatouilles d'Andréa Bescon, et puis, plus récemment, une pièce sur les lettres non écrites qui est venue en Ardèche, à Saint-Étienne, sous Fombelon, et qui donc m'a permis d'écrire cette lettre que j'aurais voulu écrire à la personne qui m'a agressée dans mon enfance. Donc, ça nous permet de passer de l'exclusion à la libération, de lâcher le poids enfin et de partager la responsabilité de protéger les enfants et les générations qui suivent. Parce que souvent quand on parle, c'est pas vraiment pour soi. On se dit qu'on nous c'est trop tard entre guillemets. Bien sûr qu'on peut guérir et se libérer d'un poids, mais on l'aura toujours avec soi. Quand on parle, c'est surtout pour protéger celles qui restent, les enfants qui sont autour de soi et qu'on a envie de préserver de ce genre de choses. Alors voilà, je pourrais revenir sur tous les mécanismes que j'ai pu personnellement vivre, sur l'innocence de l'enfance qui a été trop rapidement perdue, et puis l'emprise aussi qui a duré jusqu'à de mes 5 ans à mes 16-17 ans, donc c'est souvent un mécanisme très long. Les violences faites aux enfants, ça perdure à l'adolescence, et puis bien sûr après les mécanismes d'autodestruction sont assez hardcore, donc voilà, sur l'âge ado et l'âge adulte. Et puis, personnellement, l'écriture m'a permis de lâcher tout ça, de l'écrire et de le sortir de moi, et puis de le mettre aussi en oralité pour le crier sur scène et pour que ça parle à d'autres et que l'on se sente moins seul et qu'on puisse avancer ensemble dans ce méandre des violences subies dans l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et puis je me suis questionnée en tant que marraine, en tant que nounou, à faire garder des enfants alors que j'étais encore une grande enfant. Pourquoi j'étais toujours entourée de tous ces petits? Tout simplement pour bien m'en occuper, pour prendre soin de leur cœur et de leur corps, pour les aider à poser des limites, pour les protéger, pour faire ce qui ne m'avait pas été donné. Et aujourd'hui, en tant que tati, taton, en tant que coparent de bêtes à poil, peut-être même en tant que futur parent d'un enfant adopté, eh bien, ça questionne le sujet de la parentalité entre une volonté de ne surtout pas reproduire ce que l'on a subi sans pour autant tomber dans un surcontrôle étouffant. Voilà, je pense que tout ça, ça ne parle pas qu'à moi. Et puis, ça finit parfois par des divorces douloureux, des divorces amicaux, des divorces familiaux, de la famille de sang qu'on n'a pas choisi. Quand on décide de divorcer, des silences qui nous entourent, d'une partie de la famille qui refuse d'en parler. Mais pour les enfants qui nous entourent, les petits que j'ai gardés, c'est eux à naître et à adopter. Eh bien, moi, je décide de les protéger, même de loin, de jamais les abandonner. En 2019, déjà, je défendais les droits des enfants et la lutte contre le harcèlement à l'ONU. En 2020, je proposais à mes enfants, à mes élèves, lapsus, de la Ligue de l'enseignement, une activité en collaboration avec Amnesty International sur les droits des enfants et l'étude de la Convention internationale des droits de l'enfant, justement adoptée en 1989 par l'ONU. Et puis, à aujourd'hui, toujours, je continuerai de protéger ces enfants et de élever ma voix pour les voix silencées, continuer à planter des graines et se guérir soi pour porter la voix des autres. Et on poursuivra toutes ces thématiques dans la deuxième partie, puisque j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir dans 2 semaines l'activiste et l'artiste française Tiffaine Di pour nous parler plus en détail de son engagement enfantiste, mais aussi féministe, intersectionnel et animaliste. Avant de se quitter en musique, eh bien je voulais encore vous partager un dernier texte que j'ai pu écrire en 2022 et qui s'appelle justement le feu. Cela fait 3 ans que je brûle, je souris devant les bonjours, mais dessous je fonds, tous les jours. Mon être est en fusion, les mots reviennent, les souvenirs hurlent, je ne veux pas les nourrir, ils ne peuvent plus partir. Et moi je suis là à me demander quoi faire de tout ça. Alors j'écris de la poésie, c'est plus joli mais ça dit la solitude, ça dit la terreur, ça dit l'injustice, ça dit la peur, ça parle d'enfance, ça parle de violence, ça parle de feu qui monte en soi, ça parle de poupées cassées, de morceaux recollés à la colle bon marché. Ça parle d'aujourd'hui et ça parle d'hier. Ça parle de comment on continue quand la maison brûle. Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on change de corps? Est-ce qu'on s'aménage un nouveau décor? J'ai essayé de le dire, mais fallait pas salir. Alors j'ai lavé mes mains et oublié mon chagrin. Et ça pique au toucher, une peau qui brûle du silence. Mais pas le temps de cicatriser, faut déjà y retourner. Ce feu montait dans les coulisses, il me changeait. Et moi j'implosais, mais plus j'écrivais sur ces guerrières d'art, plus je disais l'intime et partageais mon histoire. Ma voix garde des traces, elle est cassée, ça je le sais. On l'a tant étouffée qu'elle porte les blessures confisquées. Mais rêveuse je le suis, je fuis pour me donner l'envie d'être celle que je crie. Je brûle, et ce n'est pas à moi d'éteindre le brasier de leurs crimes. Ce feu, j'en fais ma force et je rallume la fougue de ces jours heureux. Je l'attise avec mes sœurs et mes adelphes qui peuplent mon foyer. Je l'attise avec mes pleurs qui guérissent mes plaies. La culpabilité peut changer de côté. Je ne m'excuserai plus de sortir de l'abîme. Au feu, le vide intérieur, aux joies, paisible demeure. Laissons sortir les flammes de ces filles en feu, qu'elles ne connaissent plus le drame de grandir pour deux. Dans ce feu qui m'entraîne, je ne veux plus qu'elle. Il brûlera tous mes doutes et je suivrai ma route. Mais ne méprisez plus une seule d'entre elles et voyez grandir la puissance du feu. À l'universel, l'avenir vibrera de nouveaux cieux. Merci, c'était Cal pour la première partie de cette émission sur l'enfance et l'enfantisme. Et on se quitte avec cette musique flamboyante de Léonie Pernet. Hard Billy, issu de la bande son du documentaire Réinventer l'enfance.
It's burning now. Well, look at the flame.